Bonjour à tous. La grande table en deux parties. À partir de 12h55, Joan Scott, féministe ostentatoire, l'historienne américaine est notre invitée pour son essai « La politique du voile, du bon usage de la laïcité » ou comment cette question a divisé la classe politique et le monde intellectuel. Retour sur les polémiques suscitées par le port du voile en France depuis les années 80. Mais d'abord, qui du marionnettiste ou de la romancière metteur en scène tire les fils? De retour du festival de Charleville-Mézières où ils viennent de présenter leur nouvelle création « Open the Hall », il s'apprête à repartir en tournée avec La vie des formes, à voir à la Comédie de l'Est de Colmar les 27 et 29 septembre et à la Vignette de Montpellier, ce sera les 3 et 4 octobre. Célia Oudard et Renaud Herbin sont nos invités, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Célia Oudard, bonjour.
Bonjour.
Renaud Herbin, bonjour.
Bonjour.
Parce que la grande table était à Lyon vendredi, ville natale de Guignol, commençons par tordre le cou à nos vieux préjugés. En 40 ans, le monde de la marionnette a beaucoup évolué. Nouvelle école, nouvelle technique, nouvelle matière. La marionnette a aussi son festival mondial à Charleville-Mézières qui vient de clore sa 19e édition. En 2009, aussi, avec l'histoire du grand Don Quichotte et du gros Sancho Panza, du brésilien Antonio José da Silva, mis en scène par Émilie Valentin, la marionnette faisait même son entrée au répertoire de la Comédie française. Beaucoup de choses ont changé, on va en parler avec nos invités. Cette histoire, en tout cas, de la marionnette, Célia Oudard la connaît bien, puisqu'elle a grandi entourée de marionnettes, extraits de La vie des formes.
Enfant, je détestais les poupées, mais j'étais entourée de marionnettes dont j'aimais la compagnie. Mes parents sont marionnettistes. La présence des marionnettes allait de soi et s'inscrivait dans le cours des choses. Elles pouvaient être en bois, en métal, en mousse, en résine, en altuglace. Ces marionnettes étaient pour moi indissociablement liées à l'atelier, l'endroit de leur construction, réparation ou ajustement. Je rêvais dans l'atelier plus que dans la salle de spectacle. J'y bricolais moi-même. Papier canson, ciseaux, colle à eau, râpe, clous, colle à bois. L'atelier est un espace qui m'est familier et que j'ai recherché souvent à différents moments de ma vie. Je l'ai pratiqué assez longuement à Carrare, en Italie, lorsque j'avais 24 ans et que j'avais décidé de me consacrer à la sculpture, plus exactement à la taille directe.
Ça commence comme ça, Célia Oudard, quand les copines jouaient à la poupée, vous jouiez avec des marionnettes, celles de vos parents, Dominique Oudard et Jeanne Klein, qui avaient leur compagnie.
Oui, oui, on peut dire ça comme ça. J'aimais surtout travailler avec les marionnettes en train de se fabriquer, c'est-à-dire des bouts de bois, comme je le dis, de la colle, des choses très simples qui étaient sur l'établi où bricolaient à la fois mes parents, tous les membres de la compagnie, puisque c'est une sorte de troupe entre artisans et artistes. Ça a été une enfance très singulière pour moi d'être entourée comme ça de personnages en devenir, en train de surgir. Et la rencontre avec Renaud était très troublante parce que j'avais jamais eu l'occasion de me repencher finalement sur mon enfance de ce point de vue-là. Et à un moment où je m'engage davantage dans l'écriture et j'ai réalisé à quel point, sans doute, cette enfance-là m'a peut-être prédisposée à moi-même à fabriquer autrement, par les mots, des personnages et des présences, en tout cas, avec trois fois rien. Cette économie qui préside à la naissance des personnages, le peu de matériaux qui suffisent à faire surgir une présence, je pense que c'est des choses qui m'accompagnent toujours et que je suis très heureuse d'avoir re-questionné avec Renaud Herbin.
Et on entend dans cet extrait cette entrée dans l'atelier des artistes, l'atelier des marionnettistes, où l'on comprend que les marionnettes peuvent être constituées de matériaux extrêmement différents, mais vous les construisez vous-même avec vos propres mains, Renaud Herbin, ces marionnettes, vous les faites construire?
Alors, je les ai eues construites et maintenant je travaille avec Paolo Duarte, qui est un ami de longue date, qui a d'ailleurs partagé les bandes de Charleville avec moi, de l'école de la marionnette de Charleville, il y a des années. Et avec Paolo, on est vraiment dans une sorte d'aller et venue extrêmement fort, parce que quand il fabrique une marionnette, il inscrit dans la marionnette le mouvement, la promesse d'un mouvement, et c'est effectivement, je suis extrêmement attentif à la façon dont il va libérer une articulation ou la contraindre. Il va pouvoir effectivement, dans le choix des matières, proposer une certaine qualité de présence. Tout ça, c'est un travail invisible pour le spectateur, mais je pense qu'il apporte ses fruits jusqu'à la scène, puisque c'est à moi après de venir activer finalement ce que Paolo a préparé.
Alors Célia Oudard nous disait qu'elle avait déjà un biberon en forme de marionnette toute petite, donc on comprend comment elle est tombée dans cette posture magique là. On ne sait pas en revanche pour vous, Renaud Herbin, comment vous êtes arrivé vers la marionnette. Il y a eu cette école supérieure des arts de la marionnette, mais pourquoi avez-vous poussé cette porte-là, pas celle des arts déco, pas celle des beaux-arts?
Oui, c'est une bonne question, et c'est, je pense que je n'ai pas fait l'expérience de la marionnette enfant, ou en tout cas, j'en ai pas le souvenir. Et c'est peut-être ça qui m'a préservé d'ailleurs pour avoir eu envie de faire de la marionnette après. En tout cas, c'est en tant que jeune adulte, j'ai fait vraiment l'expérience d'un spectacle qui m'est vraiment tombé dessus littéralement. Je l'ai vu dans la rue. Enfin, c'était une expérience que je reverrai aujourd'hui, peut-être je porterai un autre regard, mais en tout cas, ce qui m'avait saisi, c'était ce phénomène de la vie, de l'émergence d'une vie à l'intérieur d'une matière qui me semblait évidemment, que personne ne pouvait prendre pour un organisme vivant a priori, mais qui subitement nous troublait vraiment sur son apparence.
Célia Oudard, romancière, sculpteur, ou faut-il dire sculptrice ou sculpteuse, vous avez également réalisé plusieurs performances sonores avec Sébastien Roux, des workshops dans les écoles d'art, des ateliers d'écriture et ses mises en scène avec Renaud Herbin. Renaud Herbin, directeur du TJP de Strasbourg, artiste fil rouge de cette dernière édition du Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières. En parallèle de Milieu, où vous mettez en scène seul Renaud Herbin dans une semi-obscurité, une marionnette à fil, un pantin à visage humain que vous dirigez d'en haut, vous avez présenté ensemble à Charleville-Mézières deux de vos créations, Open the Hall et La vie des formes. Cette vie des formes, elle a été créée à Avignon l'an passé, elle va partir en tournée et elle s'affiche, elle, au grand jour. Vous êtes tous les deux sur scène, enfin on devrait dire tous les trois puisque vous êtes accompagnés, et elle est centrale d'une marionnette à taille presque humaine que vous manipulez, Renaud Herbin, tandis que vous lisez, mais pas toujours, Célia Oudard, vous évoluez l'un et l'autre sur scène. Ce sont vos mots, Célia Oudard ?
Oui. Uniquement, c'était, là encore je le dis, vraiment une chance pour moi d'essayer de réfléchir à cette enfance et aussi à la quantité de choses qu'on a évoquées ensemble avec Renaud en commençant ce duo. C'était un moment d'une grande liberté et pour moi, oui, une occasion de méditer sur justement la vie des formes, qui est un titre emprunté à Henri Faucillon, qui est un auteur, un philosophe que j'ai beaucoup lu, qui m'a beaucoup marqué et qui est une référence pour nous deux. Et c'est comme un peu nos gammes à tous les deux, moi du point de vue de l'écriture et lui, je crois, bon, du côté évidemment de la marionnette, mais des choses qui sont élémentaires et qu'on a voulu tranquillement questionner, nommer, expérimenter. C'est vraiment un travail expérimental au sens premier. On a essayé de reconsidérer toutes ces choses qui comptent autant pour nous et qui sont hyper basiques et qui sont les matériaux, les éléments, l'émergence du mouvement, de la vie et notre curiosité commune pour notamment les pierres. Voilà, il y a des motifs comme ça qu'on a eu tout de suite envie de travailler. C'est vrai que ce mannequin a quelque chose de... On jouait dans un endroit magique à Avignon, qui est le cloître de la Vierge, et devant un mur très beau, et on avait l'impression que parfois ce mannequin surgissait du mur, qui avait comme une chose justement reliée au minéral. Et c'est vrai que dans mon texte aussi, je prends le temps de regarder les pierres, de parler de ma passion enfant, et pas seulement enfant, toujours maintenant pour les pierres. Et il y a tout un cabinet de curiosité comme ça, qui, dans ce texte, invite à la fois, je vais dire, des pierres, des détails du corps humain et tout ça, voilà, dans une sorte de petit musée de cabinet de curiosité commun que j'ai partagé, qui est mon imaginaire en réalité, avec Renaud.
Pierre, donc, vous avez sculpté, Pierre, donc, vous rappelez aussi que les premières écritures se faisaient à même la pierre. Extrait.
J'ai retrouvé l'atelier, sans le bruit des machines à percussion, sans la poudre de marbre qui entrait dans les yeux et blanchissait tout, lorsque je me suis mise à écrire. Lorsque j'écris, les personnages que j'imagine prennent corps dans les phrases. Ils avancent tout d'abord avec leur prénom et deux ou trois particularités individuelles, la couleur de leurs cheveux, la forme de leurs mains ou de leur bouche, la taille du lobe de leurs oreilles, une façon de regarder bien à eux, quelques détails en relief, rien de plus au début. Ils avancent dans une sorte de brouillard qui les dissimule partiellement aux autres personnages et à moi-même. Et au détour d'un paragraphe, un personnage prend chair. Il coagule, prend des couleurs et gagne en netteté. Je le vois mieux, je complète alors sa silhouette.
Elle vous ressemble un peu quand même, cette marionnette, cher Renaud Herbin.
Un petit peu, ouais, peut-être. Hein,
vous dansez avec votre double?
En fait, ce n'était pas non plus l'endroit, le sujet de notre travail, mais il s'est trouvé que... le marionnettiste fait des fois ses marionnettes à sa propre image, et c'était une sorte de gémellité, en tout cas, que j'aime, non pas appuyer parce que ce serait l'enfermer, mais plutôt de se demander comme un effet de double, comme ça, quand on voit double et on trouble un petit peu la perception.
Sans schizophrénie?
Pas du tout.
Pas du tout. Vous lui donnez quel statut à cette marionnette? Quel attribut?
On est souvent en contact, il vient souvent me précéder ou me suivre, et j'aime effectivement jouer avec cette zone un petit peu incertaine, de pas savoir qui initie quel mouvement, et très concrètement, il motive moi ma présence et mon déplacement sur scène, et je me déplace pour l'accompagner, pour effectivement le suivre dans son mouvement, dans sa trajectoire, une coprésence qui me permet vraiment de faire cet aller-retour entre nous.
Et alors, qui mène la danse sur scène? Est-ce que ce sont vos mots, Célia Oudard? Est-ce que ce sont vos mots qui donnent cette illusion de la vie? Ou est-ce que ce sont, ou c'est l'articulation de cette marionnette par vos soins, puisque c'est vous qui l'a manipulée, Renaud Herbin, qui donne le ton?
Je dirais que c'est vraiment un dialogue. Et en effet, un trio, c'est à l'échelle vraiment de l'atome, ce qui se passe entre nous. On sait par exemple que c'est un spectacle assez court et que ça tient beaucoup à la qualité, comme on dit, de nos présences, et que on se regarde intensément, on essaie d'être vraiment dans l'instant pour que tout ce qu'on convoque, et par le mouvement et par les mots en effet, mais aussi ce que le mannequin, il a une sorte, par moment il a des mouvements presque de lui-même, moi c'est une sorte de latex qui a une réaction parfois inattendue, il ne fait pas exactement ce qu'on imagine à chaque fois. Donc c'est vraiment nous trois qui sommes juste aux aguets, aussi avec des sons très délicats de Sébastien Roux, on est dans un état d'ultra-vigilance à ce qui a lieu maintenant avec les choses qu'on a apportées. C'est vraiment, pour le coup, une chose qui est pas loin de la performance, même si c'est très écrit. On est dans un ultra présent comme ça qui, je crois, nous permet d'être extrêmement à l'écoute de ce qui se passe et de ce qu'on fabrique.
Je crois que c'est aussi le soin qu'on apporte l'un et l'autre au détail et dans cette relation au présent, effectivement. Et tu écris, et Célia, tu travailles vraiment sur la description du moindre détail et à travers lequel on peut accéder à d'autres mondes et d'autres façons de percevoir. Mais ça reste toujours très concret. Et c'est ce que je pense qu'on s'attache à développer sur le plateau tous les deux de donner à voir l'endroit de notre rencontre et de notre relation au présent.
En plein air, notamment. Ouais. Quand on a l'occasion de jouer en plein air, c'est comme un cadeau, parce que la lumière, le vent nous renvoie encore plus à ce qu'on essaie de saisir dans ce spectacle.
Un ultra-présent qui tient sur un fil ou à un fil. On sent aussi que vous êtes dans un exercice d'équilibriste, Renaud Herbin, avec cette marionnette. Est-ce qu'il y a quand même, malgré tout, un rapport de domination entre vous deux?
Ben, c'est un peu l'imagerie, effectivement, qu'on pourrait avoir du marionnettiste tout puissant qui viendrait insuffler la vie et la retirer quand bon lui semble. Je vais pas dire le contraire. Il y a aussi de ça, mais ce qui m'intéresse davantage, c'est plutôt cet endroit où l'un et l'autre se donnent, s'épaulent. Et finalement, dans le milieu, par exemple, je me mets dans une situation de fragilité physique. Là, c'est-à-dire que je suis perché à 3,40 m au-dessus du sol avec au-dessus de la marionnette à fil qui très loin, avec des longs fils, et je suis dans une situation où chaque mouvement de la marionnette vient me déplacer moi-même, quoi. Donc je suis vraiment littéralement agi parce que la marionnette me propose, et en tout cas je cherche cet endroit-là, et dans la vie des formes, c'est avec une autre forme de mannequin, une autre échelle, c'est cette relation, ce duo-là, cet aller-retour continuel.
Corps, objet, image, qu'est-ce qu'on met derrière ces trois mots? Comment vous définiriez cette approche qui est la vôtre? Est-ce qu'elle est en train aussi de faire école?
Alors, c'est corps, objet, image, c'était une façon de décrire le projet du Centre Dramatique National que je dirige depuis 2012. En fait, finalement, c'était une façon de dire ce qu'est la marionnette pour moi. Et c'est une ouverture, une invitation à aller du côté du champ chorégraphique, puisque j'utilise très concrètement les outils du danseur ou du chorégraphe sur scène, et puis d'affirmer cette dimension plastique, visuelle, et du coup de la présence de l'image sur scène, qui me semble assez significatif des pratiques des arts de la marionnette contemporaines.
Célia Audard, justement, sur scène, dans vos mots, vous retracez la vie, le parcours de marionnettistes connus. Qu'est-ce qu'ils ont impulsé? Qu'est-ce qu'ils ont donné à cette discipline par leurs différentes approches? Vous citez Ted Milton, Pasolini, qui met aussi en scène Ninetto Davoli et Toto sous la forme de marionnettes au fil. Qu'est-ce que chacun a pu apporter, à contribuer, à forger dans cette histoire de la marionnette?
Déjà, à permettre à la marionnette de quitter, ou en tout cas d'élargir son champ et ne pas s'en tenir à un public, un jeune public. Et ça, c'est aussi une chose qui était très... Enfant, j'étais avec des marionnettes pour adultes, comme disaient mes parents, c'est-à-dire ils ont vraiment œuvré avec des gens comme Alain Recoin, et c'est vrai, des gens comme Ted Milton, qui lui pratiquait un guignol, enfin Punch and Judy exactement, ultra-violent, donc j'allais dire presque pas pour les enfants tellement, mais on aimait ça aussi comme enfant. Mais c'était comme élargir justement soit des marionnettes pour tout public. Et je pense que ces noms-là que je convoque, il y en a peu, mais c'est comme des pour moi en tout cas des souvenirs de marionnettistes qui ont permis à la marionnette de s'émanciper, j'allais dire, ou de retrouver une dimension plus large, peut-être à la fois plus universelle, j'allais dire, moins restreinte et un élargissement à une poétique beaucoup plus large. Et puis bon, c'est juste des souvenirs très impressionnés ou impressionnants de mon enfance, Ted Milton, et oui, qu'il y avait une forme de violence inattendue de la part de marionnettes, c'est vraiment que je rattache à un mouvement punk. C'était vraiment des marionnettes. Lui-même était terrifiant, mais on adorait, comme parfois on adore Guignol qui va dans des zones grinçantes. Voilà, en fait, on sous-estime le goût des enfants pour une forme de violence, mais qui est totalement mise à distance, et c'est ça qui est très fort chez les marionnettes. Mais voilà, c'est en passant comme ça des références pour moi qui persistent et auxquelles je pense, et qui sont peut-être pas si connues que ça, Ted Milton, à vrai dire. Et c'est un Anglais, comme ça, comme un peu fulgurant, que j'ai rencontré quand j'étais petite, et c'est inoubliable.
Sur l'art de la théâtralité, l'art du mouvement aussi, je vous propose d'écouter la voix de l'écrivain libanais Robert Abirachet, qui devrait vous parler.
Ce qui peut être le plus fidèle à l'œuvre, au mot, c'est peut-être un acteur inerte, un acteur qui serait manipulable complètement à volonté, un acteur qui se dépersonnaliserait au point d'user de son corps comme d'un signe, à l'instar de ce que fait le danseur, bien entendu, mais aussi à l'instar de ce que fait le montreur et sa marionnette. Mais la marionnette revient au premier plan de la réflexion dramaturgique avec Anatole France, et on le verra un peu plus tard avec Gordon Craig.
Peut-être que la marionnette est en fait, Renaud Herbin, le meilleur acteur ?
Ou danseur, voilà, effectivement, il nous dépasse. Elle nous dépasse, la marionnette, largement, et c'est ça qui en fait sa force. Voilà. On travaille autour, on travaille avec dans l'humilité de notre présence, de notre coprésence, et je pense que là, il y a quelque chose qui est pas qu'une question esthétique, qui est aussi une façon d'être au plateau, une façon d'être peut-être, de raconter le monde un peu différemment, où l'humain peut-être, retrouve une place qui n'est pas forcément centrale et qui n'est pas surpuissante, mais qui doit composer avec ce qui l'entoure. Et, voilà. Et c'est ça pour moi la marionnette.
Mais à propos de centralité, pourquoi vous rendre visible, vous, dans la vie des formes par exemple? Là vous êtes sur scène avec votre marionnette, avec Célia Audard aussi.
Oui, alors je suis plus ou moins visible, et je pense que je n'ai pas trouvé la solution pour être totalement invisible. Je suis constitué d'atomes qui me rendent visible, et je trouve intéressant de pouvoir pour autant travailler sur la mise en focus, sur l'endroit du détail dont on parlait tout à l'heure, ou de pouvoir donner le signe du moindre geste, de la moindre respiration qui va nous toucher, je pense.
Célia Audard.
Oui, j'ai très touchée par ce document qu'on a entendu. Ça m'évoque aussi, moi, mon amour profond pour la danse et tout ce que nous a apporté la danse contemporaine, et moi personnellement la fréquentation de la danse contemporaine, et qui est présent dans mon roman, le roman qui paraît là, chez POL, Tout un monde lointain, et qui a beaucoup à voir avec la danse et l'architecture. Et je vois que des choses, probablement qu'on a questionnées ensemble, moi, ont des prolongements. C'est ça qui est formidable dans les collaborations, c'est que je pense que notre duo a un prolongement aussi dans cette fiction que j'ai écrite après coup. C'est aussi la question de la présence d'une forme d'abstraction. C'est-à-dire que l'abstraction n'empêche pas de convoquer le vivant. Au contraire, c'est peut-être même une condition, ou en tout cas, c'est une possibilité très riche de confier à une forme abstraite, a priori inerte, dans des matériaux, voilà, contemporains, qui sont de la... Tout d'un coup, on rêve à des présences ultra organiques. Et l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire. Et ça me fascine totalement.
Dont vous révélez aussi dans ce spectacle la vie des formes, la fragilité de ces matières, à la fois ce souci du détail que vous évoquez et la fragilité des êtres et de ces matières organiques, vivantes. Cette discipline, Renaud Herbin, telle que vous la pratiquez, est aussi à la croisée du théâtre, des arts visuels, des arts plastiques. Vous, Célia Audard, dans vos romans, vous dites vous en remettre à la matière, à la lumière, au rythme naturel. C'est cette alchimie du vivant que vous retrouvez aussi dans un spectacle comme La vie des formes, que vous mettez en scène avec les marionnettes de Renaud Herbin.
Ah oui, comme je disais, c'est vraiment pour moi comme des gammes, des choses. C'était l'occasion de nommer une forme, j'ose dire peut-être de poétique que je tente, que j'explore moi-même, et j'avais jamais eu l'occasion d'en faire quelque chose, c'est-à-dire de pas juste réfléchir à ce que je fabrique, mais c'est ça qui est beau, c'est d'essayer parfois de donner forme à une pensée. Et de l'incarner, de l'accompagner. Moi, je suis pas du tout familière j'ai fait un peu de mise en scène. Et alors, j'en profite pour dire, je suis pas sculpteur, mais ça a été un moment important. J'ai imaginé un moment peut-être l'être, mais ça a été une étape initiatique comme amateur. Mais, en tout cas, d'accompagner mes mots et de les partager sur un plateau réellement, physiquement, c'est une forme d'engagement, à la fois, qui a beaucoup à voir aussi avec une forme de fragilité, parce que je prétends pas être comédienne, encore moins danseuse, encore moins marionnettiste. Je me fais une trop haute idée de ce que tout cela est, mais c'était le principe d'ailleurs de cette rencontre SACD, c'est depuis l'écriture que je m'avance sur le plateau avec mon texte, que je lis, que je ne sais pas tout à fait par cœur, en tout cas je garde ma place, mais c'est depuis cette place que je m'engage sur le plateau aux côtés de Renaud et du mannequin. Donc c'est... j'y vais, disons, dans les choses qui me tiennent à cœur, et je me dis que parfois... des occasions nous sont offertes dans ces formes pluridisciplinaires rarissimes, dans des cadres très particuliers, d'être soi-même présent à ce qu'on fait et aux choses qui nous tiennent à cœur.
On évoquait le rythme de vos romans et notamment de Tout un monde lointain, un rythme contemplatif, prendre le temps de vivre la vie comme un art également. Renaud Herbin, sur scène, c'est un peu vous le maître du temps, le mouvement de la marionnette, cette articulation qui prend ses aises aussi, qui prend son temps. Il y a un temps de référence pour vous, il y a quand même cette idée d'appeler à ralentir.
C'est une très bonne question, c'est presque une question presque de durée pour moi, c'est-à-dire qu'on accède non pas à la question de l'événement, parce qu'on fait événement sur un plateau, on convoque des gens à une heure donnée, et puis on écrit une séquence comme ça avec un début, une fin, mais ce qui m'intéresse et ce qui nous a, je crois, intéressé dans La vie des formes, c'est d'être dans une sorte de discontinuité qui touche à la question de la présence, qui touche effectivement à qu'est-ce qu'il y a derrière comme sens, comme imaginaire, derrière cette présence des corps et des rythmes et des sons, et on est là dans une chose qui nous, en creux, peut-être définit ce que nous sommes. Enfin voilà, tente en tout cas d'aller vers une définition de l'existence, qu'est-ce qui existe sur le plateau.
Après Carraré et Gilles, Tout un monde lointain, c'est donc votre dernier roman, Célia Audard, qui est paru là, juste à la rentrée. Ça fait partie de la rentrée littéraire chez POL. Ce titre, Tout un monde lointain, c'est un extrait d'une citation de Baudelaire. C'est aussi le nom d'un concerto d'Henri Dutilleux. Et ce livre est un peu la suite romanesque de votre précédent ouvrage, un essai, une promenade, French Riviera, qui est paru l'an passé autour de la villa E1027 et l'œuvre d'Eileen Gray, témoin d'une vie moderne. Menée en toute liberté. Cette fois, c'est dans cette villa de Roquebrune, sur la Côte d'Azur, que vous installez votre héroïne, Gréco, décoratrice à la retraite, ensemblière, dit-elle. Elle fera une rencontre dans cette ville-là, une double rencontre, un couple qui entre d'abord de lui-même et qu'elle invite ensuite à s'installer. L'un et les uns et les autres vont peut-être apprendre à se, là encore, à s'appréhender, à se comprendre, à se connaître. Vous avez travaillé aussi dans ce roman sur l'idée de communauté, l'idée d'utopie, l'idée de d'être ensemble. C'était cette envie-là qui vous a guidé dans ce récit.
Oui, c'est comme une hypothèse de vie que ces trois personnages ne soupçonnaient pas vivre à ce moment-là, dans ce lieu-là, qui vient les bousculer, pas simplement Gréco vieillissante. Je pense que eux aussi sont troublés par cette rencontre qui les renvoie à l'enfance de leur art, qui est la danse, la performance. Et ils s'intéressent, eux, à un mouvement qui s'appelle Monte Verita, une communauté à Ascona. Il se trouve que Gréco, elle, est née dans cette communauté au début du XXe siècle. Donc c'est comme des destins qui se rencontrent comme ça, et pour des suivant chacun leur trajet, en un temps donné, dans un moment donné et dans un espace donné, il se passe une sorte de petit miracle, en tout cas, oui, une rencontre qui commence d'abord pas très bien. Et elle a plutôt envie de les chasser, et puis finalement, c'est grâce à eux qu'elle peut revenir sur un épisode central de son enfance, on peut dire même toute son enfance, comme se replonger dans sa propre vie. Donc c'est l'histoire d'un trio inattendu et qui fait ressurgir tout un pan du passé de Gréco et qui vient nourrir aussi la curiosité de ces jeunes gens pour les origines de la danse, puisque à Monte Verita était présent Laban, Marie Wigman, voilà tout un, et puis pas simplement, on va dire tout un pan de la modernité est passé par cet endroit très singulier lors de dans ce lieu, cette utopie, on peut dire, de Monte Verita en Suisse italienne. Mais voilà, c'est un petit peu Harold et Maud à trois, on peut dire, tout un monde lointain.
Vous allez l'adapter, Renaud Herbin?
Je l'adapte déjà, moi je suis complètement imprégné. Je suis même allé à Roquebrune cet été pour voir la villa de plus près. Oui, je suis très sensible à l'écriture de Célia et il y a quelque chose très particulier, enfin, je trouve qu'il a avancé dans son roman, là, dans son rapport presque charnel à ses personnages. Il y a la présence du corps, alors c'est effectivement la présence des danseurs, mais c'est très sensuel, c'est un espace où le corps appelle vraiment un espace de souvenir. On a l'impression que il y a une épaisseur derrière la surface des choses, et ça c'est... j'ai eu beaucoup de plaisir à lire Célia.
Et la présence de la structure et la vie dans les murs, hein. Là encore on retrouve la vie des pierres qui parle et raconte toute une histoire à travers cette ville-là que vous avez enfin mis en forme fictionnelle, Célia Oudard, rendu roman à travers cette histoire, Tout un monde lointain, paru chez POL. Un grand merci à vous, Renaud Herbin, Célia Oudard.
Merci beaucoup.
On met toutes les dates de la tournée de La vie des formes et autres spectacles mis en scène ensemble sur la page de La Grande Table sur franceculture.fr. Merci.